Laudetur Jesus Christus.
Le monde d'aujourd'hui a besoin de la lumière de Jésus. Le pape a commenté hier la présentation de Jésus au temple au cours de la prière de l'Angélus. Nous y revenons en détail juste après ces titres. Dans l'actualité internationale, le Mexique et le Canada ripostent face aux droits de douane de 25% annoncés par Donald Trump. Nous entendrons le Premier ministre canadien Justin Trudeau. Nous irons aussi dans ce journal en Allemagne où à 3 semaines des législatives, la préoccupation est forte contre la montée de l'extrême droite, mais aussi la colère contre les chrétiens démocrates allemands accusés de faire la courte échelle à la droite radicale. Et puis dans notre dossier ce matin, entretien avec le directeur de la commission justice et paix de l'archidiocèse de Bukavu dans l'est de la République démocratique du Congo. Alors que les miliciens du M23 avancent vers cette ville du Sud Kivu, il invite les citoyens à œuvrer à la paix et à la cohésion sociale. L'église locale qui se dit prête à dialoguer avec tous les belligérants.
Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
Bonjour. Hier, l'Église célébrait la présentation du Seigneur au Temple lors de la prière de l'Angélus. Le pape est revenu sur l'Évangile de Luc, où Joseph et Marie présentent Jésus au Temple de Jérusalem, conformément à la loi en vigueur. Un geste accompli de génération en génération par le peuple d'Israël, mais au cours duquel se produit, a expliqué François, quelque chose qui n'était jamais arrivé auparavant. Le compte Duhamel.
Deux anciens, Simeone et Anna.
Le pape décrit l'émotion de deux anciens, Anne et Siméon, lorsqu'ils rencontrent Jésus. Leur voix résonne, dit-il, parmi les vieilles pierres du temple, annonçant la réalisation des attentes d'Israël. Dieu est vraiment présent au milieu de son peuple, non pas parce qu'il habite entre quatre murs, mais parce qu'il vit comme un homme parmi les hommes. Étonnés de ces déclarations, Marie et Joseph entendent Siméon, recevant Jésus dans ses bras, déclarer avoir vu en lui le salut, la lumière, un signe de contradiction. Jésus est le salut, confirme François. En lui, le salut universel est révélé, une vérité stupéfiante qui souligne que l'amour rédempteur de Dieu est pleinement incarné en une seule personne. Ensuite, Jésus est lumière, il illumine le monde comme le soleil levant, dissipant les ténèbres de la souffrance, du mal, de la mort, dit François, qui continue, regrette-t-il, d'affliger l'humanité. Et puis enfin, Jésus est un signe de contradiction qui révèle les vérités les plus profondes du cœur humain. À travers lui, l'histoire est jugée selon un seul critère, celui de l'amour, celui qui aime vit, celui qui est meurt. François qui invite enfin à prier Marie pour qu'elle nous accompagne, dit-il, à travers les lumières et les ombres de l'histoire, à la rencontre du Seigneur.
Marie Duhamel, l'actualité au Vatican ce lundi, c'est aussi ce premier sommet international sur les droits de l'enfant voulu par le pape François. Il doit s'articuler autour de plusieurs questions comme les droits des enfants d'accéder aux ressources, à une éducation, à une alimentation, à des soins ou à avoir une famille ou encore à vivre sans violence. Les travaux seront ouverts dans quelques minutes à 9h ce matin par un discours du Saint-Père. Elles seront présentes parmi les invités, la reine Rania de Jordanie ou encore plusieurs prix Nobel de la paix comme l'ancien vice-président américain Al Gore. Tous les détails sur ce sommet sont à retrouver sur notre site vaticannews.va. Le président américain Donald Trump doit discuter ce lundi avec ses voisins canadiens et mexicains après avoir décidé d'imposer des droits de douane à 25% sur les produits importés de ces deux pays. Une décision qui a provoqué la consternation à Ottawa comme à Mexico. Le Canada va mettre en place des droits de douane sur les produits américains en représailles à ceux annoncés par Washington. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre canadien Justin Trudeau.
But it doesn't have to be this way. As President John F. Kennedy said many years ago,
il n'est pas nécessaire que les choses se passent ainsi. Comme l'a dit le président John Fitzgerald Kennedy il y a de nombreuses années, la géographie a fait de nous des voisins, l'histoire a fait de nous des amis, l'économie a fait de nous des partenaires et la nécessité a fait de nous des alliés. Les mesures prises aujourd'hui par la Maison-Blanche nous séparent au lieu de nous rapprocher. Ce soir, j'annonce que le Canada répondra aux mesures commerciales prises par les États-Unis en imposant des droits de douane de 25% sur des produits américains d'une valeur de 150,5 milliards de dollars. Cette mesure comprendra des droits de douane immédiats sur 30 milliards de dollars de marchandises dès mardi et sera suivie de droits de douane supplémentaires sur 25 milliards de dollars de produits américains dans 21 jours afin de permettre aux entreprises et aux chaînes d'approvisionnement canadiennes de trouver des solutions de remplacement.
to seek to find alternatives.
Justin Trudeau, Premier ministre démissionnaire du Canada, et Donald Trump qui a reconnu sur les réseaux sociaux que les Américains risqueraient de souffrir en raison des contre-mesures annoncées par ses voisins. Le nouveau chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, a lui effectué sa première visite à l'étranger, au Panama. Donald Trump n'a pas fait mystère de sa volonté de reprendre le contrôle du canal de Panama qui relie les océans Atlantique et Pacifique, estimant que les navires américains qui y transitent y sont lésés par rapport à la Chine. Malgré les menaces, le président panaméen a affiché sa confiance dans les futures relations de son pays avec Washington. Benjamin Netanyahu est lui arrivé hier soir à Washington. Justement, le premier ministre israélien sera le premier dirigeant reçu par Donald Trump. Ce sera demain à la Maison-Blanche. Ce lundi, il doit s'entretenir avec Steve Witkoff, l'envoyé spécial américain pour le Moyen-Orient, et pour évoquer notamment la deuxième phase du cessez-le-feu dans la bande de Gaza entre le Hamas et Israël. L'armée israélienne qui a fait taire ses armes, au moins temporairement à Gaza, mais pas en Cisjordanie, dans la ville de Jénine, au nord du territoire occupé, où se poursuit l'opération Mur de Fer, lancée il y a 2 semaines. Elle est qualifiée par l'État hébreu comme une offensive antiterroriste. L'autorité palestinienne dénonce la destruction brutale de bâtiments entiers du camp de Jénine. Et Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, a demandé une réunion d'urgence au Conseil de sécurité de l'ONU. On fait le point à Jérusalem avec Valérie Ferrand.
Le camp de réfugiés de Jénine reste depuis plus de 3 semaines la cible d'une opération israélienne de destruction massive après l'expulsion d'un grand nombre de ses habitants. Une série d'explosions particulièrement violentes et simultanées a secoué ce camp hier, pulvérisant un quartier entier selon des méthodes rappelant aux Palestiniens celles utilisées par l'occupant israélien dans la bande de Gaza. Plus de 120 maisons et appartements ont été détruits et de nombreux autres endommagés, ainsi que l'hôpital gouvernemental. Pour Akram Rachoub du Fatah Conseil révolutionnaire, il est plus que temps que le monde arabe et la communauté internationale agissent.
Si le monde prenait des mesures qui allaient jusqu'à mettre en danger ses intérêts, l'occupant israélien obéirait.
Cette stratégie de destruction des camps de réfugiés se poursuit partout ailleurs, notamment dans la région de Toulkarem, où depuis plus d'une semaine, une partie du camp est assiégée pour forcer ses habitants à en partir. Des familles sont piégées dans les appartements, pratiquement sans nourriture. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
Une première visite à l'étranger pour le président intérimaire syrien Ahmad al-Shara. Il était hier en Arabie Saoudite, où il s'est entretenu avec le prince héritier Mohamed Ben Salman. Au sommaire des discussions, le soutien de Riyad dans la reconstruction de la Syrie. Des projets en cours dans les domaines de l'énergie, la technologie, l'éducation ou la santé ont été annoncés. La Syrie, où l'on apprend ce matin qu'au moins 15 personnes ont été tuées ce matin dans un attentat à la voiture piégée dans la région de Manbij, dans le nord du pays. En Allemagne, ce lundi aura lieu le congrès de la CDU, le parti chrétien-démocrate favori des sondages, des élections législatives qui auront lieu dans 3 semaines. L'Allemagne, où la montée de l'extrême droite préoccupe, des centaines de milliers de personnes ont manifesté dans la rue ce week-end à travers tout le pays, dont 160 000 personnes à Berlin, pour dénoncer la montée de l'AfD, mais aussi pour protester contre la droite classique. Les chrétiens-démocrates allemands ont choqué cette semaine en faisant passer un texte au Bundestag avec l'aide de l'extrême droite. À Berlin, Delphine Herbollier.
Les 160 000 manifestants qui se sont réunis dimanche devant le Reichstag ont répondu à l'appel de syndicats, des églises et d'associations qui luttent contre l'extrême droite, avec plusieurs messages. Non au parti alternatif pour l'Allemagne, l'AfD, crédité de 20% des intentions de vote. Non à la surenchère sur les questions migratoires, comme c'est le cas depuis l'attaque au couteau d'Aschaffenburg, perpétrée il y a 10 jours par un réfugié afghan et qui a fait 2 morts, dont un petit garçon de 2 ans. Mais les slogans sont aussi directement dirigés contre les chrétiens démocrates de Friedrich Merz. La CDU, cette semaine, a brisé un tabou en faisant passer un texte sur l'immigration au Bundestag, avec les voix de l'extrême droite, une première dans le pays. La colère des manifestants rejoint celle de l'ancienne chancelière Angela Merkel, qui a vivement critiqué son parti, la CDU, pour avoir brisé le cordon sanitaire autour de l'extrême droite. Cette polémique très intense et les manifestations dans tout le pays auront-elles un effet sur l'électorat de la droite classique à 3 semaines des élections législatives ? Le sujet sera au cœur du congrès national de la CDU ce lundi à Berlin. Berlin, Delphine Herbollier pour Radio Vatican.
Avant de passer à notre dossier, un mot pour saluer la mémoire du père Joseph Ballon, qui fut pendant 27 ans responsable du programme Français-Afrique de Radio Vatican. Pour beaucoup, il a permis à la radio du pape d'affirmer son universalité, de développer son ancrage africain. Le père Ballon est mort samedi dernier à Rome à l'âge de 76 ans. Les 16 pays membres de la CDAO, la Communauté de Développement de l'Afrique australe, ainsi que les 8 pays de la Communauté de l'Afrique de l'Est, réclament un sommet conjoint pour régler la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Alors que le groupe armé M23 et l'armée rwandaise, après avoir pris la ville de Goma, se rapprochent de celle de Bukavu, laissant craindre la répétition de violents combats. À Bukavu, agglomération de plus d'un million d'habitants, le diocèse tente la voie de l'apaisement, se disant prêt à dialoguer avec toutes les parties pour éviter à la population un nouveau bain de sang. Lors de la messe dominicale hier, l'archevêque de Bukavu a appelé son église à travailler à la cohésion sociale. Pour l'abbé Justin Nkunzi, le directeur de la commission Justice et Paix de l'archidiocèse de Bukavu, c'est d'ailleurs la priorité absolue. On l'écoute.
Nous, concrètement, nous devons manifester des attitudes positives. Pas céder aux manipulations, aux discours de haine, aux stéréotypes, mais rester toujours constant à la suite du Seigneur en accompagnant nos frères et sœurs dans notre vocation en faveur de l'espérance qui nous a nourris depuis notre baptême.
Est-ce que vous avez l'impression que c'est un discours qui est important aujourd'hui alors qu'on sait que des combattants du M23 sont à une centaine finalement de kilomètres de Bukavu?
Ce sont aussi nos frères et sœurs et je ne sais pas vraiment s'ils ont aussi intérêt à ce qu'il y ait effusion du sang dans cette partie est du pays. Je pense que nous tous, nous voulons un changement. Nous ne le voulons pas en versant du sang. C'est pour cela que nous travaillons avec tout le monde, les hommes étatiques, les associations de la société civile, pour que nous puissions éviter un bain de sang et que les questions politiques soient arrangées de manière politique et que les questions sociétales trouvent un espace de dialogue. Ça fait 30 ans que les gens souffrent ici. Nous en appelons à la responsabilité des uns et des autres pour éviter un bain de sang inutile. Les mamans et les enfants sont les premières victimes de tout ce qui se passe. Ce sont toujours les enfants et les hommes qui meurent sur les champs de bataille. Ce sont toujours les femmes qui meurent et dont les corps sont instrumentalisés. L'Église a son discours. C'est un discours de réconciliation, un discours d'espoir, un discours d'espérance. Maintenant, si le discours politique est piégé dans les intérêts des minéraux, des ressources naturelles ou des intérêts géostratégiques, ça, comme Église, nous ne savons pas faire. Mais nous prions et nous demandons à nos frères et sœurs vraiment de privilégier tout ce qui est de nature à nous éloigner de la guerre. Parce que la guerre n'a jamais résolu un problème dans la vie.
On sait aussi à quel point l'Église est présente au niveau de la caritas, de l'entraide, de la solidarité. Comment est-ce que l'Église peut s'organiser? D'abord pour se préparer à ce qui peut arriver, et on ne l'espère évidemment pas à Bukavu, mais surtout aussi peut-être penser à aider ceux qui ont déjà été victimes d'effusions de sang au nord.
Entre Bukavu et Goma, il y a moins de 10 minutes à vol d'oiseau. L'église de Goma, comme l'église de Bukavu, vraiment fournit un effort extraordinaire parce que le niveau des écoles, le niveau des hôpitaux, si l'église n'existe pas, qu'est-ce qui existerait encore dans cette région? L'église se mobilise. Nous travaillons sous stress et nous ne voulons pas toujours travailler toujours après conséquence. Nous souhaiterions que l'église ne viennent pas toujours comme un sapeur-pompier, mais que nous puissions être là comme une église qui accompagne. Une église qui va vers les périphéries, mais pas une église qui va faire le décompte des morts. Et j'espère que les bains du sang et les traumatismes peuvent être encore écartés.
Le pape a à nouveau appelé à prier pour la RDC, l'Est de la RDC ce dimanche. Au-delà de ses prières, qu'est-ce que vous attendez concrètement de l'Église universelle?
Sans l'Église, sans la solidarité internationale, nous ne serions pas encore là. C'est pour cela que nous en appelons aux églises sœurs du Nord. N'attendez pas seulement que les gens meurent pour dire que la Caritas aide. Nous souhaiterions qu'elles pèsent de leur poids pour que nous qui sommes ici, nous ne puissions pas être là à n'avoir que des yeux pour pleurer. mais aussi pour vivre.
Voilà, interrogé par Marie Duhamel, l'abbé Justin Nkunzi, directeur de la commission Justice et Paix à l'archidiocèse de Bukavu, était ce matin l'invité de Radio Vatican. Et ainsi s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité. Prochain rendez-vous de l'information du Vatican, de l'Église et du monde, ce sera à 13h, heure de Rome. Je vous souhaite une excellente journée.